Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille 2K. Salut 2K.
Salut frérot, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Ça va, tranquille.
Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Bah, avec grand plaisir, on va avoir l'occasion justement d'échanger sur ton parcours. T'es quelqu'un qui jusque-là a eu peu de présence médiatique, je crois. Donc ça va être justement intéressant de revenir un petit peu sur ton parcours et comme je le disais un peu, tes réflexions, tes inspirations. Comme j'ai coutume de le faire avec nos invités dans l'émission, je vais faire un petit CV en accéléré. Donc 2K, t'es un producteur ancien membre du duo Double X et au sein de ce duo ou en solo depuis quelques années. T'as fait des placements pour des grands noms du rap français depuis 2015, de Damso à Niska, en passant par Lacrim, Kekra, Kaaris, Kalash Criminel, le CV est assez long. Et on te reçoit également là pour cette émission parce que en fin d'année dernière, tu as été très présent sur un disque important, majeur de la fin d'année dernière, qui est Autobahn de SCH. J'avais d'abord une question à te poser. Alors, j'ai vu ça sur ta page Genius, mais tu vas nous dire la véracité de cette information ou pas. Là, tu t'appelles 2K, mais tu as eu d'autres pseudos de producteurs, c'est ça?
Ouais, j'ai eu plusieurs dédoublements de personnalité, on
d'accord.
va dire.
Ça va mieux aujourd'hui ?
Ça va mieux, là je pense que c'est bon, là ça y est.
Okay.
Mais ouais, j'ai commencé à la base, je m'appelais Connex,
okay.
À la base. J'étais le DJ de Gizmo,
okay.
J'ai bossé avec la Secret Connexion.
Mm-hmm.
Et ensuite, j'avais pas de blaze réellement, j'étais juste Connex. Et ensuite, je me suis appelé Yoshi pendant une période un peu sombre de ma vie, tu vois.
Parce que tu étais trop fan de Nintendo, c'est ça ?
Non, c'était par rapport à la marque Y3. C'était un peu par rapport à ça. Après, c'était une période, franchement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé.
Okay.
Donc,
Et finalement, tu es tombé sur 2K.
Exactement.
Il y a une signification particulière ?
Ah, la signification, elle est un peu technique.
Okay.
Je ne sais pas si je peux la dire ici.
C'est un espace de confiance, tu fais comme tu veux.
Bon, allez, c'est bon, je me lance.
Okay.
C'est mes initiales.
Ouais, voilà. Effectivement, c'était extrêmement technique. Avant qu'on revienne un peu sur ton parcours discographique, j'aimerais qu'on parle de ton parcours en tant qu'auditeur. C'est quoi ton premier souvenir, toi, en tant qu'auditeur de musique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à la musique ?
Je sais pas si c'est très original comme réponse.
C'est pas grave.
Mais
si
en
ça
gros, j'avais 9 ans.
Ouais.
Mon père regardait la haine. J'étais assis dans le canapé. Et j'ai vu DJ Cut Killer envoyer du scratch. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est ça que je veux faire, en fait. Donc j'ai demandé des platines à mes parents pour Noël. Ils m'ont dit que c'était compliqué. Et du coup, j'ai attendu mes 18 ans. J'ai travaillé. Je me suis acheté mes premières platines. Et c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Donc c'est un peu Cut Killer qui m'a donné envie de faire ça, on va dire.
Grand nom du DJing et du hip-hop en France, donc c'est effectivement une bonne manière d'entrer, une bonne porte d'entrée. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, donc, t'as même pas eu un truc d'auditeur, progressif, c'est-à-dire que tout de suite, c'est cet aspect de musicien, de manieur des platines qui t'a plu, quoi. C'est fou,
ouais.
Ça.
Après, quand même, il y a NTM aussi qui m'a bercé. Mon père, il avait tous les albums. Donc, il y avait NTM et Police à la maison. C'était les deux albums qui tournaient tout le temps. Le premier album d'NTM que j'ai écouté, c'est J'appuie sur la gâchette,
mm-hmm.
qui est sorti en 93.
13, tout à fait.
Donc j'avais 4 ans, mais déjà, ça me parlait. Au niveau du discours, au niveau des instrus, de la manière de poser, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait grave.
Et qu'est-ce qui t'a donné, une fois que t'as commencé à manier les platines, qui t'a donné envie de persévérer en tant que DJ justement et éventuellement d'arriver jusqu'à la production?
Bah, en vrai de vrai, moi j'ai un peu vécu le hip-hop en une version accélérée, en fait.
Okay.
Ça veut dire que j'ai commencé à faire du graffiti aussi depuis tout petit.
Mm-hmm. ça va de pair avec le fait d'écouter NTM d'une certaine
exactement,
manière en plus. Ouais.
Exactement. Et du coup, je regardais les tags quand j'étais dans la voiture. Moi, je viens du 93, du coup, je regardais les tags partout. Je prenais des photos, je les recopiais à la maison. Et après, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça. On a commencé à taguer partout. Après, je me suis intéressé. Du coup, après, j'ai pu m'acheter mes platines pour la première fois. J'ai commencé à scratcher, etc. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui venait rapper à la maison, qui m'a saoulé pour que je lui fasse des instrus, en fait.
Okay.
Il m'a dit, mais t'es DJ, tu sais faire des instrus. J'ai dit, mais non, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes différents. Mm-hmm. Il m'a tellement saoulé. Un jour, il est venu devant chez moi avec un clavier. Il m'a dit, tiens, fais-moi une instru. Je lui ai dit, eh, vas-y, tu me casses la tête, je vais te faire ton instru, là.
On était vers quelles années à ce moment-là? Est-ce que tu arriveras à situer
Ouais, on est en 2007.
Ok.
En 2007. Je suis en terminale au lycée. Mm-hmm. Et voilà, j'ai commencé à faire des prods le week-end. Je suis pas sorti de chez moi. J'ai des... En fait, donc ce mec-là, c'est Nayar. C'est un mec qui a arrêté la musique, mais ça reste un ami que je côtoie un petit peu de temps en temps, quoi. Et j'ai des amis, d'autres amis que j'avais rencontrés sur Counter-Strike. Ouais, j'ai à mon époque de gamer aussi.
Ça va avec l'époque.
Ça va aussi avec le rap pour moi. Mm-hmm. Et donc, bah, ces mecs-là, c'était des mecs du 7-7.
Okay.
Buzz et Ben, ils s'appelaient. Enfin, ils s'appellent toujours comme ça, je pense. Et donc, en gros, ils sont venus chez moi pour m'installer Cubase, mm-hmm, et pour me ramener un câble MIDI, parce que je n'avais pas de câble MIDI, et pour me montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne, quoi.
Ok.
Donc, et c'est comme ça que ça... C'est comme ça que j'ai redoublé ma terminale aussi. Ouais.
T'as passé plus de temps derrière le clavier et les platines, du coup.
Ouais, c'est ça.
Okay.
C'est ça. J'ai quitté ma meuf. J'étais vraiment devenu addict à ça.
Souvent, quand on commence à créer, on imite. Est-ce que t'avais des modèles de production, justement, sur lesquels tu te calquais au début pour commencer à toi-même t'affirmer et trouver ta propre patte, quoi?
Ouais, moi, le producteur qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup voulu imiter, c'est DJ Premier.
Ouais.
Que j'ai rencontré d'ailleurs une fois.
J'en ai.
Et pour moi, c'était le producteur des années 90-2000 du boom bap qui était la référence, quoi. Tous ces morceaux, moi, je kiffais tous ces morceaux. Et du coup, j'essayais de reproduire. Je regardais quel sample il avait utilisé. Je recopiais, je découpais les samples. J'ai beaucoup découpé de samples. Ouais.
Est-ce que tu allais sur des sites et des forums, justement, de répertoire de samples, justement, pour découvrir encore plus?
WhoSampled,
voilà, je pense à celui-là en particulier.
Je l'ai poncé, le site, ouais, j'ai beaucoup regardé ce site. Ouais.
Non, mais à quel moment tu commences vraiment à placer des productions où tu sens que tu as assez confiance en toi et assez confiance en ce que tu fais pour te dire, bah, il faut que je fasse vivre d'une certaine manière et que je partage ma musique, quoi?
Moi, en vrai, depuis le départ, quand j'ai commencé à faire mes premières prods, je savais que j'étais éclaté au mur.
Okay.
Donc, déjà, ça, c'est... Pour moi, c'était nul, mais ça me faisait kiffer. Donc je m'en foutais. Je me disais, il faut juste que je travaille et puis je vais m'améliorer.
T'avais une forme de lucidité, mais pas un syndrome de l'imposteur non plus, quoi, en te disant, non, mais en fait, je vois rien.
Faut que j'arrête.
Complètement, tu vois.
Non, parce que j'y prenais du plaisir, en fait.
Ouais.
Donc, j'ai compris que si j'y prenais du plaisir, c'est qu'il y avait quelque chose à creuser derrière. Donc, vu qu'à partir de ce moment-là, il fallait absolument que je fasse des études pour mes parents, parce qu'ils voulaient que je fasse des études, quoi. Moi, je ne voulais pas, mais bref.
Il faut rassurer les parents, souvent.
Exactement. Donc, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais faire des études d'ingé son. Mm-hmm. Comme ça, je vais pouvoir être tranquille durant mes années d'ingé son pour faire de la musique. Je vais rester dans le même domaine, quoi. Et puis, même derrière, ça pourra me permettre de faire rentrer de l'argent plus facilement, le temps de faire percer mes prods. Parce que je me doutais bien que des prods, tu deviens pas un producteur comme ça du jour au lendemain.
Bien sûr.
Je pense que tu dois charbonner des années pour arriver à faire un truc, quoi. Donc du coup...
Ouais, Ingé-son, tu disais.
Ingé-son, ouais.
Ouais.
J'ai fait l'ESRA. Et ça m'a permis après de travailler en studio, mais tout en travaillant mes prods au fur et à mesure. Et à un moment donné, j'étais en studio avec plusieurs artistes. J'ai enregistré par exemple Joke, mm-hmm, Ateyaba. Mm-hmm. J'ai mixé Kyoto de l'époque. Je travaillais beaucoup avec Omar Digno. J'ai enregistré tous ses projets, etc.
Donc, j'imagine sur des projets de Dosset, d'Ateyaba, etc.
Ouais, Dinos, ouais, à l'époque.
Ouais.
Et du coup, à partir de ce moment-là, je savais que je commençais à être prêt. Je commençais à être prêt au niveau des prods. Et c'est aussi peu de temps avant que j'ai rencontré mon ex-associé Boumidjal.
Boumidjal, avec qui tu vas former, faire former.
Avec qui on va former, voilà.
Est-ce que le fait d'être, on le disait, tu avais commencé en tant que DJ, ensuite tu t'es mis à la production sous la pression très forte d'un de tes amis.
De Nayar, ouais.
Voilà. Et ensuite, tu es passé justement en tant qu'ingé son. Est-ce que justement d'avoir eu cette formation d'ingé son, ça a commencé à te donner aussi une autre perspective de comment faire sonner une prod d'une certaine manière, soit de manière théorique, soit de manière pratique par rapport à ce que tu faisais avant? Tu commençais à comprendre les dynamiques qu'il y avait en jeu quand on fait un son?
C'est une bonne question. Je pense que oui, mais je m'en suis pas aperçu.
Ouais.
C'était naturel, en fait. Mmh, mmh. Vu que j'étais dans mon processus, je suis arrivé à mon processus de recherche musicale et créative au même moment où j'avais des cours qui me parlaient de fréquences, etc. Ben, j'ai l'impression que ça s'est mélangé un peu. Mais c'est pas l'un ou l'autre tout seul.
C'est parallèle, tout ça, quoi.
Ouais, c'est vraiment en parallèle, quoi.
C'est intéressant que tu parles de DJ Premier comme un de tes premiers modèles, parce que je fais un tout petit peu avance rapide, mais sur les premiers crédits que j'ai réussi à avoir de toi, tu parlais de Gizmo. Justement, c'est des morceaux pour Gizmo. Il y a vraiment ce truc justement du boom bap avec un gros sample derrière qu'on essaie de découper, qu'on essaie de travailler. Donc j'imagine que ça va de pair avec ce que tu disais sur l'inspiration DJ Premier, quoi.
Dis-moi ce que tu penses de moi, dis-moi. Je crois que je flanche Renoir. Entre l'Afrique et la France, je vois que beaucoup de mes gens se noient.
Exactement. Au début, moi, je voulais. À cette époque-là, déjà, il y avait les prémices du Dirty, etc., mm-hmm. qui arrivaient.
Ouais.
Moi, je ne validais pas du tout ça. Franchement, c'était pas bon pour moi, c'était pas du rap.
Okay.
J'étais un puriste, comme on appelle.
Ouais, tout à fait.
Et voilà, quoi.
Comment vous commencez à travailler ensemble, quoi, d'une certaine manière?
Comment je le rencontre, Gizmo? Alors, c'est via mon pote DJ Sims. Mm-hmm. Je sais pas si tu vois qui
c'est. Bien sûr, super DJ, justement, très connu pour son travail sur la décomposition des samples,
exactement,
etc.
Exactement.
Shout out à lui, il est très fort.
Exactement, que je rencontre à Marseille, à un concert de la Secret Connection. Mm-hmm. Et j'étais allé là-bas avec DJ Crown, je sais pas si tu vois qui c'est aussi.
Oui.
Avec qui je faisais grave des prods à l'époque. Et donc, je l'ai rencontré à la fin du concert, j'étais choqué de son set. Vraiment choqué de son set, c'est comme ça qu'on a développé donc une amitié. Mmh. Et lui, il était DJ pour la Scred, donc j'allais le voir régulièrement, etc. Et je venais chez lui, on faisait du scratch, on mixait un petit peu, etc. Et donc un jour, il m'a dit, ouais, il y a Gizmo qui cherche un DJ. Et moi, je lui ai dit, vas-y, je suis archi chaud. Et donc on a commencé à bosser comme ça, quoi, par rapport à DJ Sims.
Tu me parlais de ta rencontre avec Boumidjal. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as rencontré et comment finalement vous avez réussi à vous associer en tant que binôme qui va devenir Double X?
Comment ça s'est fait? Ça s'est fait tout simplement. Je travaillais dans un studio dans le 15e, le studio de Casa One. Mm-hmm. Et donc j'enregistrais pas mal de projets là-bas. J'ai fait beaucoup d'artistes, dont Kennedy, Endal, Paix à son âme. Beaucoup d'artistes de là-bas.
Casa One, ils faisaient tourner beaucoup de monde dans leur studio à cette époque.
Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et du coup, un jour, je me retrouve en studio, il y a un rappeur qui vient, et il y a donc Boumidjal qui vient, qui avait fait la prod du projet. Mm-hmm. Et à la fin, on sympathise, on discute, on se fait écouter des prods, et il me fait écouter une prod, et je lui dis, mais j'ai pris le même sample que toi, en fait. Et donc, j'ai joué ma prod, et on avait fait deux prods complètement différentes avec le même sample.
Chambé.
Et donc là, je me suis dit, en fait, on est complémentaires parce qu'on n'a pas du tout... On a deux visions qui sont différentes, mais on a un truc qui est commun, entre guillemets, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à bosser. Son frère, il rappait. Il rappe toujours, je crois, d'ailleurs. Donc, je commençais à l'enregistrer chez moi. J'avais fait un petit studio dans le garage de mes parents. Mmh. Et donc, il venait souvent aussi avec son frère. Et petit à petit, ça s'est fait vraiment naturellement.
Okay.
Un jour, on s'est dit... pourquoi pas faire une prod ensemble? Et la prod, elle était incroyable. La première prod qu'on a fait ensemble, elle était incroyable. Donc du coup, on s'est dit, il faut continuer, quoi. Tout simplement.
Tu parlais de complémentarité entre vous. Comment tu pourrais la décrire, cette complémentarité? C'est quoi un peu, à cette époque justement, où vous commencez à former un duo, c'est quoi ces points forts à lui qui te permettent de compléter tes points forts à toi? Comment tu vois l'alchimie, si c'est possible de mettre des mots dessus, tu vois, d'une certaine manière?
C'est complexe. Je pense que c'est un peu... Moi, c'est un peu mon problème, entre guillemets. C'est-à-dire que je vois plein de détails, donc j'ai du mal à synthétiser les choses.
Donc là, je comprends.
Je suis grave dans le détail. Mais bref, je vais essayer de la faire courte. Déjà, moi, j'étais encore dans mon délire un peu de puriste, mais je savais qu'il fallait que j'en sorte. si je voulais faire quelque chose dans la musique, mais je voulais pas faire, c'est-à-dire me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, en fait. Et donc, en gros, lui, il avait ce côté un peu plus commercial, un peu plus actuel de la musique, parce que c'est pas aussi la même génération aussi, tu vois. Il est plus jeune que moi.
Ok.
Et du coup, bah, c'est lui, entre guillemets, qui m'a fait aimer la trap. Parce qu'on a créé une trap qui mélangeait le old school avec, avec l'actuel. Donc, on faisait des compromis, en fait. Moi, je voulais des instruments plus organiques, etc. Et donc, du coup, on se cassait la tête pour faire des instruments plus organiques. Et petit à petit... bon, après, il y a Or Noir de Kaaris qui est venu changer la donne.
Bien sûr.
Pour moi, tout ce qu'il y a avant Or Noir en trap, c'est...
C'est moins abouti ?
Ouais, je valide pas trop. Okay. Après, peut-être qu'il y a des morceaux que je valide aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, je validais pas. Et quand Or Noir, il est arrivé, je me suis dit, je vais faire de la trap, moi aussi, comme thérapie. Je pense que tout le monde s'est dit ça, je pense.
Ouais, ça a été un game changer, comme on appelle justement. Et effectivement, le travail qu'on fait, toute l'équipe thérapie dessus, ça a dû marquer et influencer beaucoup de monde. Je vais revenir sur Double X. À partir de 2015, on commence à vous voir de plus en plus au crédit des albums de rap français. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a fait un bascule justement dans votre parcours, selon toi ? Est-ce qu'il y a eu un morceau ? Est-ce qu'il y a eu une collaboration avec un artiste en particulier que tu as senti déjà à l'époque ou même aujourd'hui rétrospectivement, tu sens que ça a été le moment de bascule pour vous en termes de reconnaissance?
Bien justement. Sûr, bien sûr. Il y a un seul titre qui a... C'est notre premier single. Notre premier single qu'on a fait... Du coup, je te raconte l'histoire. Il y a un artiste. Moi, je traînais beaucoup sur Facebook pour aller chercher les nouveaux talents, etc. Parce que je m'étais dit... J'avais grave regardé sur le passé, etc. Comment des producteurs ont réussi à émerger. Et donc, je me suis dit, je pense que les gros artistes, il faut essayer de les taper, mais ils vont pas forcément te donner l'heure, parce que tu es personne encore.
Bien sûr.
Donc, du coup, je me suis dit, si on arrive à trouver un artiste hyper talentueux avant qu'il perce et qu'on arrive à travailler avec lui, bon, déjà, c'est un bel échange, déjà, parce que ça va être un artiste forcément avec qui je vais aimer la musique, etc. Et du coup, par la suite, ça sera plus facile. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser avec SCH.
Ok.
Donc, j'ai vu sa vidéo freestyle en studio du morceau John Lennon. Et j'étais choqué. En plus, j'étais choqué. Et on l'a contacté. On a commencé à bosser avec lui. On a fait Morpheus. Et en parallèle, on a fait Allô Maman. Et Allô Maman, c'est le morceau, le premier single. C'est la première fois que j'ai entendu un de mes morceaux en playlist sur Skyrock. Et c'était ce morceau-là. Et j'ai compris qu'à partir de ce morceau-là, les choses, elles allaient être plus faciles d'une certaine manière et plus compliquées d'une autre. Allô maman, allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois, en fait, Morpheus et Allô Maman, c'est deux pendants complètement différents. Morpheus, ça a marqué, je pense, beaucoup un public de puristes d'une certaine manière, parce que c'est un morceau rap très brut. Parce qu'il y a aussi ce truc du clip. Enfin, je pense que ça a marqué beaucoup de gens. Et effectivement, il y a Allô Maman où c'est tout le côté peut-être plus introspectif, plus personnel de Serge. Donc, c'est marrant comment tout de suite, sur deux registres différents, vous arrivez à développer des choses avec lui, quoi. Exactement. Ouais, ça a été un peu le. Enfin, moi, ça a toujours été mon idée de la musique, c'est les deux extrêmes pour moi. C'est-à-dire l'extrême sensibilité, facilité d'écoute de grand public et le côté brut du rap, quoi. C'est les deux côtés que j'aime le plus dans la musique.
Il y a un artiste avec lequel vous allez, pendant cette période, développer, je trouve, une vraie complicité artistique, c'est Kekra.
Ouais.
Et je trouve que c'est peut-être celui avec lequel tu vas me dire si tu ressens les choses de la même manière, hein, avec lequel vous avez peut-être expérimenté le plus de choses d'une certaine manière. Moi, quand j'écoute les prods que vous faites avec lui sur Freebase 2, 3, sur Vreal 2, je trouve qu'il y a un vrai travail sur les textures, sur presque l'espace que prend le son d'une certaine manière. Comment vous rencontrez Kekra et est-ce que effectivement avec lui vous pousser respectivement vos limites, tu vois, dans ce que vous pouvez faire, quoi.
Ouais. Bah, Kekra, c'est un truc de fou. je me retrouve dans un endroit, j'entends un morceau qui sort des enceintes, et je suis en train de parler avec un pote, et je l'écoute même plus, en fait. Je dis, c'est qui ce morceau-là ? C'est quoi ce truc ? Et c'était Pas Joli qui tournait.
Yes.
Je dis, non, mais c'est un truc de fou, c'est qui ce mec-là, là ? Bah, tiens, c'est un pote à moi, tout ça, machin. Et du coup, je lui dis, non, faut absolument que je rencontre ce mec-là. C'est abusé. Est-ce qu'il a sorti des trucs ? Il n'avait rien sorti encore. Et du coup, c'est comme ça que ce pote-là nous a mis en connexion. J'ai mixé le morceau Pas Joli. Du coup, je lui dis, ah, je te le mixe si tu veux, il n'y a pas de souci. Et par la suite, on a commencé à travailler, en fait. C'était un artiste vierge, en fait. Il avait rien sorti. Mais artistiquement, il y avait un truc incroyable. Et nous, justement, c'était un côté qu'on avait envie de développer aussi. C'est-à-dire pousser un peu pousser la musique le plus loin possible. Et surtout aussi travailler un peu des textures, des samples, etc. C'est pas tout le monde, surtout à cette époque-là, qui était prêt à poser sur des trucs un peu avec du sample, etc. Donc, ouais.
Il y a un morceau en particulier justement où on entend ce truc de travail à la fois sur des samples, sur des sonorités synthétiques aussi. Il y a un morceau comme Walou par exemple. On
ouais,
entend des
je
petits...
savais que t'allais me dire Walou.
Bitch, autour de moi je vois Walou. Autour de moi je vois rien. Bitch, autour de moi je vois Walou. Autour de moi je vois rien. Je vois rien. Je vois rien.
Ça rejoint peut-être ce que tu essayes d'expliquer sur le fait de travailler sur les textures, sur le sample, etc. C'est un exemple, justement, un morceau comme celui-là.
Exactement. Bah après, ça a été bossé avec lui aussi. Il a été là, présent, dans la composition. Même des fois, il touchait le piano. Il a une folie artistique qui dépasse juste le rap, en fait. C'est-à-dire que visuellement, tu peux le voir rien que dans les clips. Il a mis son grain de touche dans les clips et dans les prods aussi, surtout dans les prods que tu cites là.
Ouais, bah justement,
Walou, Family.
Exactement.
Tous ces morceaux-là, il a vraiment participé à la composition.
Ouais, c'est vrai que Family, il y a cette espèce de mélodie un peu dissonante d'une certaine manière sur ce beat très lent. Je trouve qu'il y a vraiment un truc particulier, un peu singulier quoi en fait. Je pense que c'est ça aussi qu'on cherche quand on est musicien et producteur, c'est la singularité, c'est se démarquer quoi.
Exactement, ouais, exactement. Family, c'est lui qui nous a ramené le sample et. Il nous faisait toujours écouter plein de samples et après on choisissait un peu, on trouvait des trucs et ouais. Non, franchement, on a développé pas mal de titres. Même il y a des titres qui sont peut-être un peu passés inaperçus.
Tu pensais auxquels par exemple ?
Des morceaux comme Uzi, moi c'est des morceaux qui m'ont vraiment traumatisé. De la création jusqu'au mix, jusqu'à tout quoi. Même le clip.
Il y a un morceau que j'aime beaucoup sur lequel vous avez travaillé avec lui. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes co-crédité sur ce morceau-là, mais tu vas me dire si c'est le cas ou pas. C'est le morceau Roll Deep Style. Sur
ouais,
ce truc un peu de grime à l'anglaise.
Exactement.
Vu qu'en plus, il aime toujours aller chercher dans ce genre de morceaux. Je trouve que c'est un morceau qui sonne comme très peu de choses ont sonné dans le rap français. Quoi.
Exactement, exactement. Bah, Kukra, c'est vraiment l'artiste qui nous a parlé de ce style. L'artiste français qui nous a parlé de ce style musical en premier. Et qui nous a demandé de produire des trucs un peu dans ce délire-là en premier.
À cette époque-là, justement, où vous commencez à travailler la patte Double X, qu'est-ce que vous cherchez pour développer votre singularité ? Est-ce que ça va être dans les drums que vous choisissez, les textures que vous travaillez ? Est-ce que consciemment ou inconsciemment, tu penses qu'il y a un truc en particulier qui a pu vous démarquer, justement, et faire le son Double X ?
Bah, pour tout dire... je pense qu'il y a un compositeur qui nous a, enfin en tout cas moi pour ma part, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré et j'ai voulu vraiment ramener ce côté-là en France, c'est London on the Track,
ouais.
Qui a ramené des pianos incroyables, des mélodies, il a ramené de la mélodie dans le rap en fait. Et moi c'est ce côté-là que j'avais envie de développer en France parce qu'à l'époque il n'y en avait pas beaucoup en fait. Il n'y en avait pas même. On va pas. Par contre si on avait c'était rare quoi. Et donc moi, c'est ce côté-là que j'ai voulu développer. Après, au niveau des drum kits, franchement, j'ai flingué les Chirac. Ça veut dire que j'ai un pote à moi avec qui je faisais des prods, avec qui j'en fais toujours d'ailleurs, qui s'appelle Yakes. Et ce mec-là, un jour, en soirée, il me dit « il y a un kit, il est incroyable, Chirac ». J'ai dit « mais non, qu'est-ce que tu racontes ?» Je suis rentré chez moi, je l'ai téléchargé et je l'ai beaucoup utilisé, franchement, sur beaucoup des titres de Double X. Je l'ai beaucoup utilisé.
Vu le nom Chirac, c'est parce que c'est des choses qui viennent de la drill de Chicago, c'est ça ?
Exactement.
Ok.
Exactement. Donc il y a ce rapport aussi à Or Noir qui,
bien sûr,
qui revient au final.
Alors c'est intéressant que tu parles de London on the Track parce que avant qu'on enregistre cette émission, je t'ai juste posé une question pour la préparer. C'est est-ce qu'il y a un morceau en particulier, une prod qui a été très importante ? Tu m'en as cité beaucoup dans ton parcours, mais comme là tu l'as cité London on the Track. C'est un morceau Check de Young Thug. Pourquoi ce morceau en particulier, tu penses qu'il a été déterminant en termes d'influence dans ton son et dans votre son ?
En gros, c'est plus l'époque, c'est plus l'album Parter 6 qui a été déterminant un peu, on va dire. Parce que vraiment, là, il a posé les bases pour montrer ce que j'avais vraiment envie de faire. Parce qu'à cette époque-là, j'écoutais vraiment que du Young Thug. J'écoutais que du Young Thug, que des mélodies incroyables, des flows auto-tunés, etc., et des grosses basses qu'il envoie. Et du coup, ça m'a un peu montré le chemin de ce que j'avais envie de développer en France.
Ok.
Donc je vais pas dire que j'ai calqué son truc, mais ça m'a beaucoup inspiré.
Mais effectivement, je pense que London on the Track, il avait un côté presque à ramener parfois, un peu comme Zaytoven, des choses très qui viennent presque du blues, du jazz d'une certaine manière, dans la manière de jouer les instruments, les pianos ou les synthétiseurs d'une manière générale. Et ça a complètement donné un nouvel aspect à la trappe, quoi. Où on avait des trucs guerriers, quoi, d'une certaine
Exactement.
Manière. Là, c'est autre chose. C'est très, comme tu le disais, très mélodieux, quoi.
Ouais.
Donc effectivement, et ça s'entend dans vos productions. Je trouve même parfois dans le côté presque un peu gothique qu'il pouvait y avoir dans certaines de vos productions, très presque symphonique, tu vois, presque du Metro Boomin aussi d'une certaine manière dans ce que vous avez pu développer.
Ouais, après,
avec
il y a Metro, il nous a beaucoup inspiré. Ouais, aussi. Ouais. Metro, ça a été aussi un des producteurs. En fait, moi, ce que j'aimais faire, c'est piocher un peu de chaque producteur que j'aime, de DJ Premier jusqu'à London on the Track, Metro, même pour Boomy, lui c'était plus du Timbaland. Il y avait un peu de tout le monde en fait, et tout ça mélangé en un duo. C'était un peu ça le truc.
En 2017, il vous arrive je vais pas dire un petit miracle, mais en tout cas un moment important, c'est que vous participez à l'album Ipséité de Damso, et il y a un morceau qui s'appelle Macarena, qui dès sa sortie prend en fait. D'un seul coup, c'est le morceau qui est plébiscité par le public. D'où vient ce morceau ? Est-ce que tu te souviens comment il a été créé et comment tu as vécu justement cette réception en fait, cette appropriation, tu vois, du public, quoi, de ce morceau-là, quoi.
Ah, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Pour te raconter l'histoire du morceau, bon là déjà, il y a la rencontre avec Damso. Déjà la rencontre avec Damso. Mon petit frère, il est très branché musique et il me parle de lui. Il me dit, ah, j'écoute que lui, batterie faible, écoute. Moi, j'écoute. Je dis, ouais, c'est pas mal, mais je sais pas, tu vois, je sais pas. Il me dit, ah, crois-moi, fais-moi confiance, faut que tu bosses avec lui. Je dis, vas-y, bah, je vais essayer de bosser avec lui. Sauf que j'avais pas le contact. Mon petit frère, il est parti à un showcase de Damso. À la fin du showcase, il est parti lui parler. Il lui a parlé de nous, il lui a parlé de Double X. Il a dit, ouais, je connais et tout. Il nous a donné le mail. Mon frère, il me ramène le mail. Moi, j'en vois rien pendant 3 semaines. Va savoir pourquoi. Et après, au bout d'un moment, je me dis, bon, mon frère, il me casse la tête tous les jours. Alors, tu lui as envoyé ? Non, j'ai rien envoyé. Bref, je m'auto-sabote de temps en temps. C'est quelque chose que j'aimais faire à l'époque. Et donc, en gros, au bout d'un moment, on commence à lui envoyer des trucs. Et la prod de Damso, la prod de Macarena, on la compose en plein mois de Ramadan. Donc, estomac vide, la faim, vraiment la faim. On se parle au téléphone avec Boomy et je lui dis, ouais, il faut qu'on fasse une prod un peu avec des accords jazz qui n'ont jamais été entendus dans le rap. Je veux des accords vraiment spéciaux et je veux ce côté un peu boom bap dans la mélodie, et moi je vais ramener la trappe sur les drums. Il m'envoie un truc. Là, je suis posé chez ma grand-mère en train d'attendre le repas. Je sens les odeurs de shorba. Je commence à avoir très très faim. J'entends la mélodie, je me dis non, c'est trop. Il est resté une heure, j'ai pris la voiture, je suis reparti chez mes parents. J'étais dans le garage, j'ai tapé la prod en 30 minutes. Je l'ai exporté, Et après, je suis parti manger. La prod, je l'ai fait écouter à tout le monde. Tout le monde. C'était ma prod préférée. Je me disais, mais non, cette prod-là, il faut faire un truc de fou dessus.
Tu sentais qu'il y avait quelque chose de magique.
Il y avait un truc magique dans cette prod. Je l'aimais trop, vraiment. Et je l'ai fait écouter à beaucoup, beaucoup d'artistes. Personne ne l'a prise. Jusqu'au jour où je l'envoie à Damso, et il me dit de la mettre de côté. Un jour avant la sortie. Donc j'ai envoyé les pistes, donc j'ai pas entendu le morceau. J'étais pas au studio, rien du tout. Je me retrouve dans le bureau de Landry, à Capitole. Il nous fait écouter les morceaux qu'on a placés, dont Macarena.
Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la Macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là.
Première écoute, j'aime pas le morceau. Et je le dis pas. Je dis, ah, bien, ouais, franchement, bien.
Qu'est-ce qui t'a déplu à l'époque?
Je l'imaginais pas comme ça.
Okay.
Moi, je l'imaginais en Young Thug. Je l'imaginais posé avec des flows autotunés, mélodieux. Là, lui, il a pris sa mélodie. Il a choisi sa propre mélodie. Et la manière dont il l'a posée, c'était pas ma vision, en fait. Mm-hmm. Après, c'est une histoire de vision, des
bien
fois.
Bien sûr, c'est le jeu, en fait. C'est parce que c'est deux visions qui se rencontrent entre le ou les producteurs et l'interprète, quoi.
C'est ça. Après, quand je vois que le morceau, il commence à monter, tout le monde en parle, tout le monde l'écoute, je me dis, attends, je vais le réécouter quand même. Et à force de le réécouter, j'ai kiffé le morceau. Même après, à force de l'entendre à la radio, tu commences à l'aimer un peu plus. Ouais. Mais au début, je l'avais pas vu. Franchement, c'est incroyable.
Alors sur cette période, là, on parle de Damso, mais vous placez pour Kalash Criminel, Lacrim, Niska, Caris. On parlait justement d'SCH aussi. Est-ce que parmi toutes les productions que vous arrivez à placer à cette époque, il y a un choix fait par un rappeur qui vous surprend? Est-ce que tu as le souvenir de dire, je ne m'attendais pas à ce qu'il la prenne, cette prod-là, et en plus, ce qu'il a réussi à faire dessus, ça tue, parce que je voyais, là tu nous parlais de Macarena, justement, tu ne voyais pas ça dessus. Est-ce que tu as un autre exemple, tu vois, d'un truc un peu surprenant parmi les placements que vous faites à cette époque-là avec un artiste avec lequel vous bossez?
Ouais, je pense qu'il y a, par exemple, Caris. Par exemple, donc Caris, il y a le morceau de Chouin.
Ouais.
Donc, en gros, il y avait déjà une prod sur le morceau. Et la prod, elle n'était pas ouf, tu vois. Donc, en gros, on nous demande de refaire une instru sur la capella. Moi, j'entends le morceau. Au début, je sais pas, je me dis, je sais pas. Tu vois, j'arrive pas à trouver un truc intéressant dans ce morceau. Donc on teste une prod, on est dans le garage de chez mes parents. Mon père il est dans le jardin en train de faire du jardinage, il aime ça. On fait la prod, on finit, on se regarde. On se dit non, allez, c'est éclaté en fait. Supprimé. Et là, il y a mon père, il vient, il toque à la vitre, j'ouvre la vitre. Il me dit, hey, ça c'est un tube ça.
Donc après le petit frère, le père.
Ouais, exactement.
Okay.
Donc là, je fais Pomme Z, on exporte le truc, on l'envoie à Caris. Il pète tout un plomb, il dit c'est incroyable, etc. Donc c'est validé. Alors quand...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
En vrai, nous, on allait le supprimer, vraiment. Et donc voilà, après, ça a donné le morceau que ça a donné et le résultat que ça a donné.
Je rentre avec DJ Maxa et Loti. Tu t'assois sur mes cuisses, t'es sur piloti. Balle dans le chargeur, et bien Loti. Faut que je fasse rentrer des gros Loki. De liège saute, elle se retrouve dans l'œil du videur. Il se demande si je prépare une sauce. Je t'emmène dans le futur comme dans les visiteurs.
Même celui-là, je ne m'attendais pas aussi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pète à ce point-là, en fait.
C'est parfois aussi une question de timing. On est fin 2016, je crois.
Ouais, c'est ça.
L'explosion de l'afro-trap avec MHD. Vous faites un truc un peu hybride. Il y a des passages chez de la trap, il y a des passages chez de l'afro. Il y a peut-être aussi cette question de timing parfois aussi avec le public et le fait que ça puisse péter ou pas, quoi.
Ouais, exactement. Après, il y a une petite polémique sur le morceau. Il y a une petite polémique, ça c'est technique, mais en vrai, je me dois d'en parler.
Vas-y.
C'est-à-dire que c'est une histoire de ouf. Hein. C'est une histoire, vraiment une histoire du rap. Donc la prod de base, elle a été faite par des mecs. J'ai oublié les noms. Elle a été faite par des mecs. Ces mecs-là, ils ont attaqué à la sortie du morceau en disant que c'était qu'on avait recopié leur prod. Donc là, on se dit, ouais, c'est quoi ce délire et tout. En plus, on n'a pas fait la même prod. Donc l'Assasem, ils ont fait une vérification de savoir si on avait plagié leur prod. Mm-hmm. Donc c'est une vérification qui coûte très cher. Après vérification, ils ont dit qu'on n'avait pas recopié. Par rapport au temps, par rapport aux mélodies, etc. Mmh. Sauf qu'ensuite, on a appris que ces mecs-là, ils ont recopié la prod d'une artiste belge qui s'appelle Tenny.
Ok.
Et c'était composé par d'autres mecs. Donc, nous, on a refait la prod d'un mec qui avait volé la prod de quelqu'un.
Donc, c'est l'inception, là.
Du coup, dans la logique, moi, j'ai dit, dans ces cas-là, on va donner un pourcentage aux mecs qui se sont fait voler la prod de base. Parce qu'eux, ils ont essayé de la mettre à l'envers. Mm-hmm. On ne va rien leur donner. Ils ont essayé de nous attaquer en plus.
Okay.
Donc, on va donner à ces mecs-là. Et j'ai oublié leur nom. Je suis désolé d'ailleurs, mais j'ai oublié leur blase.
Et ben, on les salue quand même.
On les salue.
Voilà. On les salue.
C'est un peu leur idée de faire un passage trap et un passage afro, un mélange, même si on l'avait déjà fait à certains moments. Mm-hmm. Mais voilà, c'était la formule, elle venait un petit peu d'eux.
Ok. Pour vous, c'est quoi, enfin pour toi, ce serait quoi la production la plus emblématique de cette période où vous êtes le duo qu'on s'arrache, tu vois, justement. Ce serait quoi la production, soit la plus emblématique, soit dont tu es la plus satisfaite, tu vois, de cette période-là?
Je pense que c'est pas très original, mais je vais dire Macarena quand même. Hein.
Ouais.
Malgré tout, Macarena.
On y revient, ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un peu de tout dedans. Mm. Il y a un peu de tout ce qu'on a fait dedans. Après, il y a un morceau comme Feu de Bois aussi. Pour moi, celui-là, c'est le morceau de la clôture de Double X. C'est le dernier morceau, le dernier gros morceau qui est sorti sous le nom de Double X. Et donc ce morceau-là aussi.
Symboliquement, pourtant, il est important, quoi.
Ouais. Ouais.
En parallèle, en plus du fait que vous placez pour des rappeurs qui font de la trap pur jus, même si avec quelqu'un comme Caris, on voit aussi qu'ils peuvent faire autre chose, vous bossez aussi avec l'artiste Marwa Loud. J'ai envie de dire, par rapport à ce que tu m'as raconté sur cette armure du puriste que tu pouvais avoir, là ça montre encore des signes d'ouverture et de possibilités musicales que tu n'avais peut-être même pas soupçonné chez toi, finalement.
Bien sûr. Grosse dédicace à l'artiste, c'est un bête d'humain, franchement, c'est une super bonne personne. Bah, en fait, tu sais, c'est... Après, en fait, j'ai compris que rester fermé, en fait, ça ne servait à rien. Donc j'ai testé mon ouverture, mm-hmm. et je me suis dit qu'il y avait du bon à prendre dans chaque domaine. Et dans chaque humain, il y a un truc bon, en fait. Tu vois, et il faut juste le prendre et l'exploiter. C'est-à-dire que dans tous les types de musique, dans tous les types de morceaux, si je me retrouve avec n'importe quel artiste, je pourrais faire quelque chose pour qu'il y ait un peu de moi à l'intérieur, en fait. Mm-hmm. Tu vois. Il ne s'agit pas de se travestir complètement et de faire un morceau qui va à l'encontre de... Ça, moi, je n'ai jamais voulu faire. Un truc vraiment qui me... Moi, il y a des morceaux, des fois, qui m'énervent. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas dire c'est qui, mais il y a des morceaux, des fois, au niveau du style de prod et tout, c'est des morceaux qui ne me correspondent pas, en fait, tu vois. Ça veut dire, moi, je ne pourrais pas faire ça. Et du coup, après, j'ai compris qu'il fallait s'ouvrir un petit peu, quand même. Puis l'artiste, on l'a rencontré avec XO, quand on bossait l'album.
Avec XO. Lequel vous avez beaucoup travaillé, justement.
Exactement.
Parce qu'en termes de réalisation aussi sur son album.
Exactement, on a réalisé tout son dernier album, son album L'Ennemi. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'artiste. Et on a matché humainement, on s'est entendu super, on s'est grave bien entendu avec l'artiste. Et donc on a commencé à bosser avec lui de cette manière-là. Et ensuite, l'artiste nous présente Marwa en nous disant « Ouais, il faut que vous bossiez avec elle. » Moi, c'était pas trop dans mon ADN musical, du tout même. Mais vu que ça venait de l'artiste, j'ai voulu le faire. Et en le faisant, j'y ai pris du plaisir. Et pour moi, on a fait des bons morceaux.
Bad boy,
que c'est peut-être pas forcément des morceaux que moi-même je vais écouter, mais à créer, c'était un plaisir. Parce que franchement, elle est très très forte. En studio, ça va très très vite. Elle a des mélodies, des textes. Après, voilà, je tiens à préciser, ouais, sur cet album, l'artiste, il était beaucoup présent et il a beaucoup ramené sa patte aussi dans ce projet. Donc c'était un mélange vraiment.
Ouais, bien sûr. Et puis j'imagine que du coup, pour toi ou pour n'importe quel producteur, quand effectivement vous sortez entre guillemets de votre zone de confort, c'est cet équilibre à trouver entre vos envies, les envies d'un artiste et, comme tu disais, en fait aussi prendre du plaisir à ce qu'on fait, quoi. Je pense que c'est ça l'équilibre le plus important, quoi, non?
Ouais, et puis c'est, bah après, c'est aussi quand tu fais de la musique tous les jours, tu fais beaucoup de sessions avec beaucoup d'artistes. Par exemple, imagine pendant un mois, tu fais de la trap tous les jours. Ton cerveau, après, je sais pas, ton cerveau, il a besoin de se détendre un peu. Donc, quand tu pars dans un petit peu plus de douceur, ça te fait du bien, ça t'aère l'esprit. Tu continues de travailler, tu restes dans ton domaine. Et en plus de ça, après, quand tu reviens dans quelque chose qui te parle le plus, ben, ça te ramène une fraîcheur, en fait.
Tu parlais de feu de bois, qui pour toi symbolise quelque chose, marque peut-être une fin. J'ai eu l'impression, moi, en tant qu'auditeur à cette époque-là, et puis là, en reparcourant ta discographie, votre discographie avec Boumi, justement, que effectivement, il y a peut-être eu une période où, parce que vous étiez très présent, parce que vous étiez dans le jus, il y avait un peu une formule qui commençait peut-être à devenir répétitive. Je vois que tu acquiesces. Est-ce que tu partages? Est-ce que tu
le partages à 2000%?
Ouais.
Je le partage à 2000%. Et en fait, c'est une question de vision. C'est une question de vision. Comment t'expliquer la chose? En gros, justement à cette période-là, la recette a commencé à s'épuiser. C'est-à-dire que ça y est, il y avait du double X partout, dans tous les albums. Et tout le monde faisait du double X. En toute humilité.
Ah ouais,
on a inspiré des gens, je pense, à mon humble avis. Et du coup, ben là, c'était saturé, en fait. Il y avait trop de ça, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore trop de ça. Et du coup, moi, ma vision à ce moment-là, c'était, il faut qu'on se retire, peu importe. On va rater de l'argent, on va rater des bises à droite, à gauche, mais il faut qu'on se retire. Et il faut qu'on aille dans un autre pays pour essayer de taper un autre pays. Et donc, à ce moment-là, c'est là où, entre guillemets, la fin de Double X, elle était inévitable pour un souci de vision, en fait, tu vois. Parce que là, Double X, on aurait continué. Je suis pas sûr qu'on aurait pu rester. En fait, il y a des étapes, en fait, pour moi, dans la carrière d'un compositeur, il y a des étapes. Il y a des paliers à franchir. Une fois que tu es arrivé à un palier, il faut pas continuer à faire la même chose. Sinon, tu vas rester à ce palier, tu vas descendre. Donc c'est tout ce que je voulais dire, voilà.
Donc vous avez eu un désaccord artistique avec Boumi, c'est ça?
Ouais, c'est à peu près ça, ouais.
Ok, et
ouais.
Donc du coup vous avez décidé de vous séparer, c'est
exactement
ce qui s'est passé,
voilà.
C'était vers quelle année du coup? 2018, 2019, 2020, j'arrive, moi quand je vois les crédits c'est à peu près cette période là
ouais, 2018
pas... ouais.
2018, fin 2018.
Est-ce que du coup, alors t'as commencé en faisant la production seul, même si effectivement t'étais avec des amis, etc. Il y a eu cette période où vous étiez à deux cerveaux. Est-ce que d'un seul coup de te retrouver seul, ça a été un défi, dans le sens positif du terme, ou est-ce que ça a pu être aussi un peu anxiogène dans le sens où d'un seul coup tu te retrouves tout seul et bah, il faut charbonner tout seul, quoi?
Ouais, c'était un peu un défi. Après moi j'ai mon caractère algérien, des fois je suis un peu trop buté. Okay. Donc là, moi, je me suis dit, j'ai besoin de plus personne à ce moment-là. Je te parle en toute honnêteté. Hein. J'ai besoin de plus personne. Et donc, je me suis dit, je vais tout faire tout seul. Et en fait, j'avais complètement tort, en fait. Tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai la sagesse de me dire que, en fait, non, en fait.
T'as ce recul aujourd'hui pour.
Ouais, j'ai ce recul.
Ouais.
J'ai ce recul. À l'époque, il y avait peut-être des frustrations, des trucs où tu te dis, ouais, il y a un peu de manque d'humilité aussi, peut-être. Ouais, je vais tout faire tout seul. Mais non, en fait, non. La musique, c'est du partage. Et en fait, se retrouver tout seul en studio, c'est un peu... C'est pas cool, en fait. C'est mieux de se retrouver avec des amis. C'est mieux d'avoir une équipe et d'avancer ensemble, en fait, tu vois. Donc la musique tout seul, moi, j'y crois pas trop. Sauf à l'époque de DJ Premier. Mais en vrai, il était pas tout seul parce qu'il prenait des samples de mecs qui ont bossé à une vingtaine dans un studio avec une trentaine de micros. Donc non, je pense que la musique, ça se fait à plusieurs.
Et est-ce que du coup sur cette période où d'un seul coup, comme tu dis, il y a une forme de défi, est-ce que tu as une forme de réflexion sur on a fait ça, j'ai réussi à faire ça et on a réussi à faire ça, à prendre ces directions-là et à les accomplir avec notre vision à nous. Est-ce que maintenant il faut que j'accomplisse de nouvelles visions? Est-ce qu'il faut que j'essaye d'autres choses musicalement, que je me réinvente dans mes choix de drum, dans les directions musicales
bien
que
sûr,
je vais prendre?
Ouais. Bien sûr, exactement. Mmh. Moi, à cette période-là, donc nous, on a toujours travaillé nos prods sur Logic. Mmh. Et moi, du coup, à cette période-là, je me suis dit, il faut que je change de logiciel
okay.
pour changer mon son. Parce qu'avec mon logiciel Logic que j'ai flingué dans tous les sens, j'ai mes raccourcis, j'ai mes templates, j'ai mes trucs. Et du coup, et aussi, il y a bien le moteur audio qui joue aussi. Et du coup, ben, je ne vais pas réussir à sortir de WX, en fait. Mmh. Il faut que je crée un nouveau son. Et donc, ben, c'est comme ça que je me suis mis sur FL. Logiciel que j'ai longtemps dénigré, j'ai longtemps mal parlé sur ce logiciel.
Pourquoi ?
Parce que je trouvais que c'était trop simple
okay.
de faire sonner un truc. Sur Logic, c'est plus difficile de faire sonner un truc. Mais sur FL, c'est simple. Mais en vrai, dans le simple, il y a toujours quelque chose de compliqué. Donc, au final, aujourd'hui, sa simplicité, sa rapidité, ça va un petit peu avec la musique actuelle, mm-hmm. qui se consomme super rapidement. Et qui tout va très vite en fait. Il n'y a plus le temps de se mettre une heure sur un charlet. Mets-toi sur FL. Pendant au tout début, je commençais mes prods sur FL et je les finissais sur Pro Tools.
Okay.
J'avais testé cette recette. Mm-hmm. Par exemple, un morceau comme Cigarette que j'ai fait avec Caris et SCH. Mm-hmm. J'ai commencé la prod sur. D'ailleurs, c'est un sample de Chopin.
Ok.
Du même morceau que le sample de
That's My People de NTM, okay. voilà. produit par Sully Céphile.
Exactement. Et du coup, j'ai cherché une recette, quoi.
T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. T'es mort, comme le mec sur mon paquet de cigarettes. Mitra.
Il y a un vrai travail de glitch, de sample qui sursaute d'une certaine manière sur ce truc de Chopin. Donc il y a un vrai travail.
Ouais, un vrai travail de découpage.
Ouais. Donc ouais, ça t'a complètement changé ta philosophie et ta manière de travailler à ce moment-là, quoi.
Je me suis cherché.
Ouais.
Je me suis cherché musicalement, je me suis re-recherché encore. Et voilà, après, il y a des mecs qui m'ont inspiré aussi à cette période-là. C'est un mec comme Jetson Made, mm-hmm. qui pour moi, c'était un des meilleurs à cette époque-là.
Producteur pour Da Baby, notamment.
Exactement. Et donc, lui, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré à cette époque-là. Mais voilà, c'est tout.
Il y a un truc que je trouve intéressant depuis justement que tu re-signes tout seul tes productions. Deux choses. Il y a déjà le fait que tu as travaillé avec, et c'est ce que tu disais d'une certaine manière quand tu contactes CH vers 2014-2015, c'est que pareil, tu vas beaucoup travailler avec des jeunes artistes à ce moment, depuis 2018-2019. Je pense à des gens comme Lone Psy, comme Joy Sad, pardon, comme Jalito, comme Vince aussi. Tu vois, il y a un truc commun entre tous ces artistes, c'est qu'ils sont jeunes justement, ils sont j'aime pas beaucoup ce terme, mais en développement.
Ouais.
Il y a une vraie volonté de ta part, justement, à ce moment-là ?
Bah, en fait, clairement, ça va avec la démarche de recherche musicale. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je me dis, la plupart des gros artistes, entre guillemets, ils tournent en rond, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur zone de confort, on va dire. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur zone de confort. Du coup, moi, si je vais travailler avec eux pour refaire la même chose qu'ils ont l'habitude de faire avec d'autres beatmakers, ça sert à rien. C'est comme à l'époque de WX. Quand je suis arrivé, je voulais tout faire pour me démarquer et pour pas faire la même chose que les autres. Et c'est ça qui a donné le succès, je pense. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'aille voir un peu ce que font tous les jeunes artistes en développement, tous les jeunes artistes qui sont là et qui ont la dalle du début, pour me redonner la dalle aussi. Parce qu'une fois que tu as fait beaucoup de choses, des fois, tu peux te perdre un petit peu et tu peux... Donc j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de me... En fait, moi, pour moi, c'est des paliers en fait. Donc j'avais besoin de... C'est comme quand tu joues à Mario, t'as passé ce monde-là, tu viens de passer trois mondes, et une fois que t'as perdu, moi j'aime bien recommencer, on va recommencer au monde 1, comme ça on va poser les bases bien solides pour vraiment arriver le plus fort possible.
Tu regardes un peu les Marvel ou pas ?
Non, pas trop.
Ok, ouais. Parce que dans Iron Man 3, Tony Stark... on lui enlève tout. En fait, il perd son entreprise, donc Iron Man, il perd tout, en fait. Et il est obligé de repartir à zéro. Et en fait, il se recrée une armure dans une grange au fin fond de la campagne américaine avec les bouts de métal qu'il arrive à trouver. En fait, ce que tu décris, j'ai l'impression que c'est presque ça.
Ouais, c'est un peu ça, mais tu vas le regarder là.
Tu vois, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu reprends tout, même techniquement, tu vois, en repartant sur un nouveau logiciel et même en allant chercher de l'inspiration en travaillant avec des artistes avec lesquels tu n'as jamais bossé, tu vois. En quittant un peu d'une certaine manière le confort que tu avais réussi à construire les années précédentes, quoi.
Ouais, voilà. Bien sûr. Ouais, c'est un peu ça. Après, carrément, le problème dans tout ça, c'est que j'en suis venu carrément à oublier mon passé.
Ok.
Ça, j'avais oublié, en fait. Donc, j'ai dû me rappeler que, ah ouais, en fait, c'est moi, j'ai fait ça, en fait. J'étais un peu trop déconnecté. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pouvoir. Ça m'a permis de me reconstruire un peu musicalement et psychologiquement pour aller encore plus loin dans la recherche. Parce que le but, c'est vraiment de ramener. Moi, je veux ramener un truc. Je veux pas juste faire des hits, faire de la musique, suivre la tendance. Mm-hmm. Ça, il faut le faire un petit peu, c'est clair, faut pas négliger. Mais j'ai vraiment envie de ramener un truc dans la musique.
Ça, ce truc justement de sortir un peu de cette zone de confort et de chercher des choses, je le sens avec deux artistes. Chitel et Nepsi, parce qu'il y a ce truc chez lui de entre chansons, R&B, rap, où en fait tu développes des choses musicalement que t'avais pas fait auparavant.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que tu peux me parler de sa collaboration avec lui et à quel point ça a pu t'inspirer, quoi?
Après, la collaboration avec Lonepsi, c'est un des meilleurs potes de mon petit frère, en fait.
Ok.
Donc, il vient de ma ville aussi. Il vient de Livry-Gargan. Et du coup, il venait chez moi au début de Double X. Il était tout le temps chez moi. Donc, il nous voyait comment on charbonnait, etc. On a bossé quelques titres avec lui qui ne sont pas sortis à l'époque. Et donc, c'était logique. On se voyait régulièrement, je ne sais pas, des anniversaires, des trucs. On se voyait, quoi. Il venait chez mes parents tout le temps. Donc, il y avait un côté un peu familial. Il y avait des longues discussions. On se donnait des conseils mutuellement. Moi, je lui en donnais beaucoup aussi parce que j'avais plus d'expérience à cette époque-là. Mais honnêtement, il a charbonné tout seul, vraiment. Il a charbonné tout seul. Nos collaborations, c'est pas des réelles collaborations, on va dire.
Okay.
Je sais pas comment l'expliquer.
C'est des coups de pouce, je sais pas, non, c'est même pas ça.
Ouais, c'est un peu ça, parce que lui, il fait ses prods lui-même, etc. Donc des fois, ça manquait, il manquait un peu de quelque chose dans des morceaux. Et du coup, logiquement, moi, je me suis proposé de lui faire ses petits arrangements. Sur
voilà,
ses prods.
Ce que j'allais dire, c'est presque de l'arrangement.
Plus des arrangements. Okay. Ouais. Plus des arrangements.
Personne ne peut m'empêcher de rêver. Personne ne peut m'empêcher de rêver. Il est des jours où l'arbre mieux de l'aube s'éclipse pour laisser entrer la lumière. Il est des jours où l'ombre.
Alors il y a un autre artiste avec lequel tu bosses, sur lequel je trouve d'une certaine manière tu retrouves presque un retour aux sources, et avec Vince.
Ouais.
Alors il y a évidemment un morceau comme Manifest par exemple, sur lequel vous reprenez un sample d'un morceau d'Akhenaton et Shuriken.
Exactement. Ouais.
Mon rap est fat, pas sûr qu'il passe les portes, souvent je dépasse les bornes. Le vase déborde, putain j'aime pas cette époque. Je dédicace mes potes, chez qui des casse des connes, tous ceux qui cassent des clopes pour ne plus voir ce décor.
Mais d'une certaine manière, sur les morceaux que vous développez ensemble avec Vince à ce moment-là. Que ce soit Sur mon trottoir ou Liberté, où il y a une sorte de côté rap français un peu plus classique, avec des rythmiques actuelles.
C'est coproduit avec Lonepsi, justement.
Justement, le travail, il est intéressant. C'est qu'il y a presque un truc un peu de retour aux sources chez toi par rapport à tout ce que tu nous racontais sur d'où tu viens musicalement, ouais. sur un travail avec quelqu'un comme Vince.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vince, ça a été un peu l'artiste où j'avais besoin de recommencer mes prods boom bap de l'époque sur mon nouveau logiciel avec un nouvel artiste. En fait, j'ai vraiment ce truc de vivre la chronologie pour me réinstaller au stade où j'étais au moment où il y a eu la séparation de Double X. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça se trouve, je suis un psychopathe, hein, je suis un serial killer peut-être. Ça veut dire que j'ai des rituels, j'ai des codes, des trucs où j'ai besoin de faire ça pour arriver là où je veux aller, en fait. C'est des chemins, en fait.
Ouais, ouais.
C'est un peu de cette manière dont je crée ma musique aussi. C'est-à-dire que je commence par, je sais pas, peut-être une petite mélodie. Ensuite, je vais lui rajouter un truc. Après, ça va me donner une idée qui va arriver là-bas. Quelqu'un va dire un mot, ça va me donner une autre idée. Tu vois ce que je veux dire? Fait, c'est un chemin, en fait. Ouais, c'est un chemin que je suis. C'est un tunnel.
Sur le côté, justement, dont tu parlais de plus faire de musique tout seul, là, on parlait de travailler avec des jeunes rappeurs. Ouais. Mais il y a aussi un truc, quand on regarde les crédits, c'est que tu bosses aussi avec des plus jeunes producteurs que toi depuis. Exactement. Je pense à des gens comme Kosei, comme Sectra. Ouais. Alors, Yakes, c'est quelqu'un peut-être plus de ta génération, je ne sais pas, mais en tout cas, avec lequel tu bosses aussi. On sent aussi que tu tends à peut-être à garder cette oreille fraîche avec des producteurs plus jeunes, quoi, qui sont sensibles peut-être à d'autres choses que toi. Quoi.
Bien sûr. Bah, je vais répondre à ta question en deux parties. En fait, la première partie, en vrai, ça, c'est un truc. Moi, j'essaie de côtoyer des gens de tout âge et je m'intéresse à ce qu'ils écoutent pour essayer de comprendre un peu l'univers musical. Même moi, j'aime pas trop aller en boîte de nuit, mais si j'y vais, c'est pour voir quels morceaux fonctionnent. Mm-hmm. Les concerts, j'aime bien y aller aussi pour voir, mais c'est sur quel morceau que le public réagit le plus. À quelle partie du morceau, ça m'aide pour les arrangements, ça m'aide pour plein de trucs. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'aime bien côtoyer des gens de toute génération pour vraiment comprendre. Il y a des trucs que je comprends pas, il y a des trucs, des petites 20 piges, ils écoutent, moi, je comprends pas et je veux comprendre, en fait, tu vois. Comme il y a des darons, des fois, ils me font écouter des trucs de blues, de je sais pas quoi, alors que j'y connais pas grand-chose. Et du coup, ça m'inspire, en fait. Et pour ce truc de la production, moi, j'ai bossé à l'époque, avant WX, j'ai compris que je devais bosser en duo. C'était ma manière de travailler. Chacun a sa manière de travailler.
Bien sûr.
Et du coup, bah, j'ai commencé à bosser des prods un peu avec plein de gens. Je faisais des prods avec Ken ou Ryu, je ne sais plus. Je ne sais pas c'est lequel. Okay. On ne sait pas qui est qui.
Donc avec Wavemaker ou avec Camille, c'est ça?
Ouais, donc Wavemaker.
Du Wavemaker.
Coup. Ouais. Donc on commençait à bosser des prods ensemble. On a fait des belles prods ensemble. Je savais qu'il fallait que je bosse en duo. Donc, j'ai bossé un peu avec plein de gens et jusqu'à me dire « Ah, c'est avec lui que ça marche bien. » Donc, avec Boomy, ça fonctionnait très, très bien. C'était vraiment fluide, rapide. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit « Il faut qu'on fasse quelque chose. » Et là, lors d'aujourd'hui, bah, j'ai refait la même chose, en fait. Donc, j'ai bossé des prods un peu avec plein de personnes. Et au final, bah, j'ai découvert un pianiste sur Insta qui s'appelle Gancho.
Oui.
Et qui est incroyable. Musicalement, il est incroyable. Même limite, il ne faut pas trop qu'il mette des notes. Des fois, il faut lui demander d'enlever des notes. Et du coup, aujourd'hui, la plupart de mes productions, bah, je les fais avec lui. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à faire des prods un peu avec d'autres compositeurs. Et puis, pour parler de Kosei et Sectra, c'est un type de compositeur qui m'intéresse grave parce que ils ont les oreilles fraîches. Ils ont une vision nouvelle sur la musique et ils ont une manière de composer nouvelle et ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses.
Alors, tu m'as offert une transition parfaite en parlant de Gancho parce que justement, vous êtes tous les deux au crédit de nombreuses productions sur, donc, je le disais en introduction de cette émission, sur un album important qui est sorti fin d'année dernière qui est Autobahn des CH. SCH, ouais. Que tu connais donc depuis très longtemps.
Ouais.
Comment vous êtes retrouvés à travailler ensemble sur ce dernier disque d'SCH?
Ah, ça fait des années que nos chemins, ils font que de se croiser. Il y a des fois, on se perd de vue, on se recroise. On a commencé à bosser avec un manager et on avait le même. Mais on s'est croisé une fois, mais on n'a pas été amené à se retrouver en studio. Et moi, c'était une certitude, c'était que même à l'époque, les Allô Maman, etc., on n'était pas en studio avec lui.
Okay.
Et moi, ma certitude depuis John Lennon, c'était que si je me retrouve en studio avec lui, c'est sûr que ça match. Musicalement, humainement, c'est sûr. Et ben, c'est arrivé presque un peu moins de 10 ans plus tard. Et ça s'est fait par le biais de Yotwin, qui est un ami de longue date, qui est dans la musique aussi.
Okay.
En ce moment, il est tourneur pour Fresh. Il l'accompagne sur toutes ses dates, etc. Pour Fresh Lapeufra.
Ouais, ouais.
Et du coup, bah, c'est lui un peu qui nous a remis en contact parce qu'il bosse aussi sur la tournée du S. Mm-hmm. Et c'est lui qui nous a un peu. Qui nous a fait nous rencontrer en studio et depuis, on ne s'est pas quitté en fait.
Est-ce qu'au moment où vous commencez à travailler justement sur Autobahn, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous avez une idée précise de la couleur, la direction que vous voulez donner à cette mixtape, ce disque ? Qui a un truc, qui a quand même un fil directeur sur lequel on retrouve certaines teintes, ou est-ce que c'est des accidents de studio d'une certaine manière?
Bah, je pense qu'il avait déjà commencé à travailler quand on s'est capté. Ensuite, il est venu dans mon studio, on a commencé à bosser. on a fait deux titres, et ensuite, il y a eu le séminaire. Et je pense que l'idée, après, faudrait vérifier l'information, mais je pense que l'idée, elle est venue à partir de ce moment-là.
Okay.
Donc, à partir du séminaire, il a su qu'il voulait faire un concept autobahn autour
de la vitesse,
de l'automobile, le sport auto, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à développer ce truc-là. Parce que de toute façon, ce côté auto, il a toujours été un peu dans sa musique. Et du coup, après, ça lui est venu un peu comme ça, je pense. Ouais.
Mais effectivement, ça sent sur les cadences, notamment, je trouve, de certaines instrus de cette mixtape, où on va avoir du two-step, on va avoir des choses qui rappellent le rap marseillais du début des années 2000.
Ouais.
J'imagine, du coup, c'est pas accidentel, quoi, ce genre d'ambiance-là que vous êtes allés chercher ensemble, quoi.
Non, c'est pas accidentel. Après, il y a ce côté un peu two-step. C'est venu un petit peu, même en partie, de Néné, qui est son DJ, et qui a une grosse culture sur ce style musical. Et c'est lui qui nous a fait découvrir un peu des manières de produire ce style.
Ouais.
Et du coup, on a développé ce truc-là. Et le but, c'était vraiment de se dépasser et de le faire en simplicité, sans se prendre la tête.
Au cas où ça chie, ensemble à mon hood. Gros moteur allemand, Vivienne Westwood. Comme un romanzo, tout à bras long comme un cabo. Ne serre pas la main. Ressemble à mon
Tu sens que lui comme toi, vous aviez, de la même manière que tu disais, t'as besoin de travailler à plusieurs, que d'un seul coup, lui comme toi, vous aviez besoin de l'un et l'autre d'une certaine manière, justement pour aller plus loin dans des idées musicales que vous aviez d'une certaine manière.
C'est réel. Après, sur la, je pense que sur la conception d'Autobad, en vrai, on s'est découvert musicalement parce qu'on avait toujours travaillé à distance, donc c'est pas pareil.
Bien sûr.
C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et du coup, on a appris à se connaître musicalement et je pense que ça va donner des grandes choses encore.
Peut-être des futurs morceaux d'SCH avec 2K au crédit.
Peut-être. Qui sait.
Alors justement, c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de développer sur 2023, 2024, 2025? Est-ce que tu voudrais accompagner un jeune artiste, justement, continuer à beaucoup produire pour lui, faire pousser grandes choses, justement, pour que lui aussi arrive à faire des grandes choses avec toi et puis ensuite tout seul? Est-ce que tu as déjà un peu des idées d'envie que tu as en tant qu'artiste?
Ouais, j'ai plein d'idées. Après, je vais pas... Souvent, moi, les projets futurs et tout, j'aime pas trop en parler.
Je comprends.
C'est des choses que je garde un peu... J'aime bien parler des choses qui sont faites,
okay.
Mais pour te parler sur les grandes lignes, par exemple, Gancho, moi, depuis qu'il travaille avec moi, j'ai toujours voulu qu'il puisse travailler avec d'autres compositeurs aussi et qu'il ne soit pas enfermé, comme moi, je peux travailler avec d'autres compositeurs. Et donc voilà, quoi. Et du coup, il a déjà placé sur des gros titres, même sans moi, dont je suis très fier. Par exemple, il a fait Malpoli de Kalash et Damso, coproduit avec Chaz. Et du coup, il fait plein de titres aussi. Il fait plein de titres de son côté, donc ça bougera pas. Et puis là, pour 2023, mon but, c'est de vraiment aller au bout au niveau de la réalisation des titres. Parce que à l'époque de WX, à l'époque, toutes ces dernières années, c'était pas un côté qu'il fallait absolument mettre en avant. C'est-à-dire que la musique, elle était plus simple, j'ai l'impression. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, la réalisation complexe et technique, c'est ça qui marche. Tu regardes des artistes comme Laylo, Freeze, c'est des trucs hyper produits.
PNL,
exactement. Bon, eux, je les mets à part quand même, parce que ça fait des années que ça fonctionne de cette manière.
Bien sûr.
Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils ont besoin d'entendre quelque chose de nouveau au niveau... Surtout que la technologie, elle évolue super vite et qu'il y a des grandes choses qui sont possibles d'être faites sur les logiciels. Il y a beaucoup de logiciels qui sortent. Et donc du coup, là, j'aimerais bien pousser vraiment la production, la réalisation, l'arrangement des titres encore plus loin, en fait.
Alors, j'ai une dernière question à te poser pour cet entretien. Ce n'est pas toujours la plus facile.
Ouais.
Mais je vais te donner un peu de temps pour y répondre. Si aujourd'hui, tu devais te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ton travail, en une production, ce serait laquelle dans ton répertoire à toi? Avec tout ce qu'on a raconté, tout le parcours qu'on a balayé, s'il y avait une prod représentative de ce que tu aimes faire en musique, ce serait laquelle?
Je pense qu'on va se dire Morpheus. Hein.
Ok.
Ouais. Je suis sur le toit, tu sais qu'on s'enlise. Je lève un doigt à maman dans les tourments. Tu parles de moi, moi je te souhaite juste de pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Sky dans un mug, j'ai déjeuné. Liasse bien trop grosse pour entrer dans la poche. Tu joues les thugs, on est en 2015. Tony ici, il tiendrait la sacoche.
On revient aux origines de la collaboration avec SCH.
Ouais, exactement.
Pourquoi Morpheus?
Parce que c'est un morceau. C'est un morceau unique, vraiment. C'est un morceau unique, c'est un morceau. Même au niveau de la prod, il y avait déjà des rythmiques drill.
Mm-hmm.
Et c'est, je me rappelle que c'est SCH qui nous avait demandé une rythmique de cette manière-là, en mode Chirac. Et le morceau, moi je le trouve incroyable, jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm.
Jusqu'à aujourd'hui.
Il passe très bien les années, en effet. Et puis, comme tu dis, en plus, il s'est avéré être avant-gardiste, d'une certaine manière.
Exactement.
Merci beaucoup, Touquet, d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté le podcast BPM de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes et puis à très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.